L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble dans cette église, nous allons prendre l'histoire et toute la biographie, si on veut, de l'apôtre Paul pour, on va racheter cet homme-là, d'une certaine façon, on va redécouvrir, si on veut, la vie de l'apôtre Paul à la lumière de la parole de Dieu. Et je veux vous inviter pendant toute cette série, je ne sais pas combien de temps vous passez à étudier cette vie-là, mais je veux vous inviter à porter votre Bible. Combien d'entre vous, vous avez une Bible? Amen, hey, c'est bon. Vous avez une Bible. Donc, apportez votre Bible parce qu'on va lire des passages et vous allez, vous allez être surpris des choses que vous allez apprendre. On va être surpris ensemble parce que moi, j'ai été surpris simplement en voyant certaines choses dans la parole de Dieu. Mais premièrement, une des choses qu'on veut voir, c'est que l'apôtre Paul nous a présenté toutes sortes de choses toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que quand l'apôtre Paul écrivait ses lettres aux églises, c'était toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, nous savons que oui, c'est l'apôtre Paul qui a été l'instrument choisi de Dieu, mais nous savons que l'auteur est Dieu. Amen. Donc, c'est merveilleux pour ça. Donc, une des choses qu'on veut voir concernant la vie de l'apôtre Paul, et c'est une des choses, quand je priais, je disais, Seigneur, montre-moi pourquoi les gens ici dans l'Assemblée, ils diraient, mais pourquoi moi je devrais apprendre à découvrir cet homme-là? Il y a une des choses que le Seigneur me montrait, c'est que l'opposition spirituelle, nous vivons dans un monde spirituel, et l'opposition spirituelle est inévitable pour nous. L'opposition spirituelle est inévitable pour nous tous. Et comme on voit l'apôtre Paul, on voit dans sa vie qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Et si nous sommes dans ce même royaume spirituel, certainement nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes sauvés en route vers le ciel, amen. Bien, vous savez que le moment qu'on est transféré d'un royaume à un autre royaume, bien, il y a une guerre. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui sont là, des nouveaux croyants, des nouveaux convertis, et ils sont là, puis ils nous disent, mais je comprends pas, avant de connaître Jésus, ma vie était plus facile. Ma vie était plus facile. Je commettais des péchés, ça me dérangeait pas. Je faisais toutes sortes de choses, des mauvais coups. Je volais aux impôts, admettons. Je faisais toutes sortes de choses, et puis, j'étais correct avec ça, et là, tout d'un coup, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, lorsque je veux faire de la fraude, je suis attristé en dedans. Ou on dirait, je veux m'approcher de Dieu, mais là, le téléphone sonne. On dirait, je veux vraiment comme m'approcher de Dieu, et puis on dirait, il y a toujours de la résistance. Mais c'est quoi cette chose-là? Et c'est normal pour nous, le moment qu'on est transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière en Jésus-Christ, il va y avoir de l'opposition spirituelle. Et c'est pour ça qu'on devrait étudier la vie de l'apôtre Paul, parce que quand on découvre sa vie, on réalise que lui aussi a vécu de l'opposition spirituelle, et pourtant, on peut être vraiment estomaqué par la provision de Dieu, malgré l'opposition spirituelle. Donc, ce message et cette série de prédications, d'enseignements, cette série-là va vous aider dans votre vie spirituelle au niveau de l'opposition spirituelle. Donc, ce qu'on veut faire, premièrement, c'est aller dans 1 Pierre chapitre 2, verset 20, où nous lisons ensemble. « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Remarquez ici qu'est-ce qui est écrit. Avez-vous vos Bibles avec vous? On est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20. Je vais le relire. Je vous invite à aller dans vos Bibles avec moi. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si vous vivez des choses difficiles, mais c'est parce que vous avez commis des fautes, et là vous récoltez toutes sortes de choses négatives, bien c'est de la faute à qui? La faute à Dieu? Non, c'est de votre faute. Si vous faites des choses mauvaises, et là vous récoltez des choses mauvaises, c'est de votre faute. Mais là, ça dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Dites grâce. Je veux que vous vous rappelez de ça. On va parler de la grâce de Dieu aujourd'hui. On va parler de la grâce surnaturelle de Dieu. Donc, c'est important pour nous de se rappeler de ces choses-là. Donc, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et on va voir cette grâce-là, ça va être merveilleux. Une des choses, l'opposition spirituelle est inévitable et même fait partie de la volonté permissive de Dieu. Je vous explique ça. Vous savez, si vous faites persécuter pour votre foi en Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu parfaite. Parce que ce que Dieu voudrait, c'est que la personne qui vous persécute, Dieu aimerait mieux que cette personne-là soit sauvée. Amen. Et qu'elle cesse de vous persécuter. Mais si vous devez vous tenir pour Jésus-Christ et vous affirmer dans votre foi, peu importe l'opinion des gens, peu importe les jugements, peu importe même les douleurs physiques. Au Canada, on est béni, on n'a pas de persécution comme ça, mais dans d'autres pays, il y a des gens qui sont persécutés comme ça, d'une façon physique. Bien, si vous devez vivre ces choses-là pour vous tenir pour la vérité, c'est dans la volonté de Dieu permissive. Dieu a mieux ça que vous soyez là à le renier. Amen. Donc, si vous êtes là avec moi ce matin, c'est important pour nous de réaliser que Dieu veut qu'on se tienne pour la vérité, pour qu'on se tienne debout pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez de la difficulté avec ça, je vais vous inviter à tourner dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 à 12. Et il y a une raison pour ça, c'est que l'être humain, comme on a vu il y a quelques semaines, n'est pas un robot. Dieu n'a pas créé une gang de robots. Nous sommes des individus, nous avons le libre arbitre. Donc, si une personne vous persécute, Dieu n'est pas l'auteur de la persécution. Dieu n'est pas celui qui vient inspirer la personne à parler en mal contre vous, vous attaquer. Non, c'est certainement pas Dieu l'auteur. Mais nous comprenons ici que même si l'être humain n'est pas un robot, l'être humain peut faire des gestes contre nous. Et nous, dans cette chose-là, on doit comprendre là-dedans qu'on veut honorer le Seigneur et toujours se tenir pour la vérité. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 à 12, il est écrit. Pour toi, ici c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils spirituel Timothée. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. On sait que le Seigneur l'a délivré de toutes ses persécutions jusqu'à ce moment-là. Et verset 12, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Combien d'entre vous, ça vous réjouit en lisant ça? Je vais le relire. « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Hallelujah! Est-ce qu'on devrait faire une conférence comme ça? Persécution garantie. Mais je vais relire ici. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, si on lit dans la version française courant, ça dit une vie fidèle à Jésus. Si vous ne marchez pas dans le compromis, si vous marchez d'une façon fidèle envers Jésus-Christ, vous serez persécuté. Pour moi, dans mon expérience de vie, ça a commencé à l'âge de 5 ans, quand j'ai commencé à aller à l'école. Et je me suis tenu pour Jésus-Christ et puis je me suis fait persécuter. À l'âge de 5 ans, où les enfants se prosternaient devant moi, et puis disaient « Alléluia, Alléluia », ils se moquaient de moi pour essayer de me décourager de marcher avec Jésus. Et comme j'arrivais à la maison, puis je racontais ma journée à ma mère me disait qu'on devait se réjouir. « Réjouis-toi, Joël, parce que t'es digne de te faire persécuter pour le nom de Christ. C'est une bonne chose. » Mais combien d'entre vous, quand vous vous faites persécuter, ça vous réjouit? Humainement, ça ne tente pas, n'est-ce pas? On n'aime pas ça, se faire persécuter. La chair n'aime pas ça. Cependant, si vous vous faites persécuter, pas parce que vous avez commis des fautes, mais parce que vous vous tenez pour la justice, bien, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Donc, c'est pas trop compliqué jusqu'à présent. Et là, vous allez dire, mais pourquoi on a besoin d'entendre parler de persécution? Je suis pas intéressé d'entendre parler de ça. Mais avez-vous déjà lu votre Bible? Et des fois, on lit ces passages-là, puis on se dit, mais comment ça? Dieu permet la persécution. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas des robots. Donc, les êtres humains, il y a des mauvaises personnes dans ce monde. Saviez-vous ça? Je vous apprends une grande nouvelle, hein? Il y a des mauvaises personnes et Dieu n'est pas là. Nous ne sommes pas des robots. Donc, s'ils agissent d'une mauvaise façon, nous devons savoir comment réagir et comment relâcher notre foi malgré les choses difficiles dans lesquelles on peut se trouver. Gloire à Dieu pour ça. Bon, ben moi, j'ai vécu la persécution. Peut-être, certains d'entre vous, vous n'avez jamais vécu de persécution. Ça se peut. Mais peut-être, vous n'osez pas mettre votre nom affiché pour le Seigneur Jésus. Et peut-être, aujourd'hui, le Seigneur vous dit, mais c'est le temps maintenant de sortir et de permettre aux gens de savoir que vous êtes un enfant de Dieu. Des fois, c'est pour ça qu'on ne vit pas de persécution. C'est parce qu'on est caché. On est un chrétien top secret. Mais si vous êtes un chrétien top secret, vous devez devenir un chrétien officiel et que les gens puissent le savoir. Parce que quand les gens ont besoin de se tourner vers Dieu, ils ont besoin de savoir qui connaît Dieu. Mais si vous vous êtes caché dans votre identité et puis vous allez à l'église le dimanche et là, les gens vous disent « Ah, bonjour monsieur le voisin, tu t'en vas toujours très de bonne heure les dimanches. Oui, je m'en vais voir des amis. » C'est vrai, on est des amis. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je m'en vais célébrer mon Dieu à l'église. Ah oui? T'es quoi toi? T'es dans une secte? Non, je suis un enfant de Dieu, je lis la Bible, j'aime Jésus. Ah oui? Ah? Mais là, ça peut vous ouvrir des portes pour évangéliser. Et on doit faire comme l'apôtre Paul et être visible. Donc, la première chose que je voulais juste voir avec vous, c'est que l'opposition spirituelle est inévitable pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vie surnaturelle de Jésus est là malgré les attaques. La vie surnaturelle de Dieu. Et qu'est-ce qui est absolument merveilleux, c'est lorsqu'on vit des persécutions, même si on vit l'opposition spirituelle, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est quand la grâce de Dieu vient sur nous et on vit un high spirituel quand même. Je peux vous le dire, on s'affiche pour Jésus, on peut se faire persécuter à cause du nom de Jésus, mais la grâce de Dieu vient et on tripe et on est béni quand même. Je peux vous le dire, moi ça me bénit. Vous essayez-le. Si vous n'avez jamais vécu la souffrance comme ça, là, vous devez l'essayer. Essayez ça et testez la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite maintenant à aller dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. Nous allons voir ici la vie surnaturelle de Jésus, qui est là pour celui qui ose s'affirmer pour Jésus-Christ. Je vous rappelle, on parle ici de l'apôtre Paul, qui a vécu beaucoup, beaucoup de persécutions, beaucoup d'épreuves. Et on va revenir, on va parler de son origine, tout ça, de ses origines, on va voir toutes sortes de choses ensemble. On va voir ses révélations surnaturelles, ses visitations de Dieu, toutes ces choses-là. Mais premièrement, on doit établir dans nos cœurs pourquoi on veut même étudier ce grand personnage-là. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12, il est écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor, cette lumière de l'Évangile dans des vases de terre, dans nos corps, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Remarquez ici, nous allons recevoir une grande puissance, et ça dit, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, il y a une grande puissance disponible pour vous aujourd'hui. Nous sommes pressés. Regardez ici là les attaques que l'apôtre Paul a vécues. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans nos corps la mort de Jésus. Pourquoi ça? À cause des persécutions que l'apôtre Paul vivait. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Remarquez, même si l'ennemi s'oppose, même si l'ennemi attaque, la vie de Jésus peut également être manifestée dans votre corps. Rappelez-vous de ces paroles-là, parce qu'on va voir plusieurs choses aujourd'hui qui vont être vraiment intéressantes. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Remarquez encore une fois la vie de Jésus qui va être manifestée dans notre chair mortelle. Verset 12. Ainsi la mort qui agit en nous, et la vie agit en nous. Ici, on voit une des choses, certainement l'apôtre Paul, il connaissait l'origine des attaques. Aujourd'hui, vous êtes dans cette église, et je sais que vous savez que celui qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire, c'est Satan. Amen? Vous connaissez la source. Si vous vivez des persécutions, vous le savez, c'est pas Dieu qui envoie la personne pour vous faire du mal. Amen? Vous avez discernement, comme l'apôtre Paul avait ce discernement-là, donc il connaissait la source des attaques. Maintenant, si vous êtes tanné d'entendre parler des persécutions et des attaques que l'apôtre Paul a vécues, je vais vous inviter au menu maintenant des persécutions et des attaques. Vous dites, mais je suis déjà rassasié, pasteur Joël. Bien, continuons. Faut tout manger l'assiette. Amen? Amen. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 et 28. Aujourd'hui, on va avoir du bon temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, parce que quand on approfondit la parole de Dieu, on est moins ignorant. Amen. Et là, on connaît des choses, la parole de Dieu. Et là, quand quelqu'un va venir vous dire, « Mais toi, tu peux pas t'attendre d'être guéri, mais regarde l'apôtre Paul, avec son écharpe dans la chair. Mais non, tu peux pas t'attendre de recevoir la provision de Dieu. Mais non, voyons. Parce que l'apôtre Paul, lui, il savait être contenté. Et ça va être contenté. Et puis en plus, même dans la disette, là, faut vraiment triper là-dessus, la disette. On va voir, on va tout mettre ces choses-là à la lumière de la parole de Dieu. On va voir tout le conseil de Dieu au lieu d'isoler juste des versets et là, faire accroître toutes sortes de choses. Mais c'est super merveilleux. Moi, ça me réjouit parce que vous allez sortir de cette série plus connaissant et en plus, plus béni parce que vous allez pouvoir marcher en plus de victoire sans aucune muraille devant vous, des murailles de tradition. Donc, encore une fois, on va sortir nos fusils et on va tuer les vaches sacrées au Québec. Amen? Êtes-vous prêts à tuer des vaches sacrées? Des vaches qui sont là pour vous empêcher de recevoir votre héritage en Jésus. On le découvre aujourd'hui par l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 28. Ici, nous voyons comment l'apôtre Paul a souffert pour le nom de Jésus. 5 fois, j'ai reçu des Juifs. 40 coups, moins un. Wow! Imaginez. Je relis. 5 fois, j'ai reçu des Juifs. 40 coups, moins un. Comprenez, juste en lisant ce verset-là, les Juifs à l'époque, comme vous savez, c'était les gens religieux, puis certainement l'apôtre Paul, c'était un Juif, mais l'apôtre Paul qui avait reçu le salut en Jésus-Christ était perçu par certains Juifs comme étant une personne hérétique, une personne qui allait vraiment à l'encontre, qui n'était pas dans les voies de Dieu, donc on s'opposait et on voulait le punir parce qu'il propageait une fausse doctrine, celle de Jésus-Christ, dans le salut en Jésus-Christ. Donc 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. On comprend ici, il se faisait flageller. OK? Il a reçu ça. Et on dit, mais pourquoi 39 coups? Parce que la loi disait on ne pouvait pas dépasser 40 coups. Donc, quand on flageolait, on voulait être certain de ne pas désobéir à Dieu. Donc, on se disait, on va faire 39 si jamais on a mal compté. C'est pour ça. Il recevait 39 coups. Il a reçu ça 5 fois. Combien d'entre vous avez reçu un traitement comme ça? Vous avez été flageolé 5 fois comme l'apôtre Paul? Je pense pas, hein? Il n'y a personne ici. On continue. 3 fois, j'ai été battu de verge. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Donc, 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et ici, ça nous parle, l'abîme, quand on parle de l'abîme, on parle que c'est littéralement quand l'apôtre Paul était pris dans les eaux, il flottait. Les docteurs en théologie nous disent probablement ça veut dire qu'il est en train de flotter sur des morceaux de bois d'un bateau qui venait d'être brisé. Comme si vous avez vu le Titanic, à la fin on voit là Leonardo DiCaprio qui est là, qui flotte là et qui gèle là. Mais ça ressemble à ça, moins froid, j'imagine. Donc, 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans la mer, et en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Non seulement tout ça, mais en plus, il était préoccupé avec les églises. Donc, il y avait même des problèmes ou des épreuves au niveau des émotions. Et là, on voit l'apôtre Paul, il a été vraiment éprouvé. Êtes-vous d'accord? Combien d'entre vous, ça vous tente de vivre la même chose? Ça ne me tente pas trop, hein? On n'aime pas trop ça. Mais c'est important de savoir ce que l'apôtre Paul a vécu. Là, qu'est-ce qui est absolument remarquable? On dirait, si admettons, vous êtes un enfant de Dieu, et là, vous vous tenez pour la justice et vous vivez toutes sortes de persécutions. Après un bout de temps, on se dirait, ah ben là, j'en ai plein mon casse au Québec. J'en ai plein mon casse. Je suis tanné de vivre ça. Je suis plus capable. Combien d'entre vous, des fois, vous avez vécu moins de choses pour la cause de Christ et vous avez dit, je suis plus capable? Dites-le pas là. Mais je suis plus capable. Des fois, on fait juste sentir des choses d'une lourdeur. Oh, je suis plus capable. Mais là, c'est pas juste sentir des choses. Là, c'est littéralement ressentir physiquement des choses. Et pourtant, je veux vous faire remarquer une chose absolument merveilleuse de l'apôtre Paul. Il avait une perspective remarquable. Une perspective des choses absolument remarquable. Et aujourd'hui, je vais vous passer au défi. Si jamais vous avez des épreuves, je sais, certains d'entre vous, vous êtes tellement bénis, vous avez la difficulté à même discerner quand c'est une épreuve, là. Mais admettons, vous avez une épreuve. Je veux vous encourager aujourd'hui à avoir cette même perspective que l'apôtre Paul avait. On la retrouve dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 19. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 19. Il est écrit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Malgré les épreuves que l'apôtre Paul a vécues, il dit, nous ne perdons pas courage. Combien d'entre vous, aujourd'hui, comme on entend parler de ces choses-là, on voit les choses difficiles qu'il a vécues, et puis il est capable de dire, nous ne perdons pas courage. Êtes-vous capable de dire, moi là, la prochaine fois que l'ennemi va venir contre moi, je ne perdrai pas courage. Moi aussi, je vais être comme l'apôtre Paul. Je veux me tenir pour la vérité sans perdre courage. C'est bon, ça. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, ici, on ne parle pas de la maladie, on parle de persécution. Quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Là, remarquez qu'est-ce qui est vraiment remarquable au verset 17. Car nos légères afflictions, avez-vous remarqué? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Moi, je viens de lire ça, puis on dirait que vous n'avez rien compris. Savez-vous pourquoi? C'est un silence total. Quand on lit ça, je vais vous le relire. Savez-vous pourquoi? Premièrement, qu'est-ce qui est absolument remarquable? Nos légères afflictions. Il parle des choses atroces, mais pour lui, c'est léger. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Imaginez la perspective que l'apôtre Paul avait. Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point, dites non point, parce que nous regardons non point aux choses visibles. C'est ça notre problème des fois. On regarde aux choses visibles et là, on perd courage. Mais lui, il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. L'apôtre Paul était capable d'avoir un focus dans le surnaturel, dans l'invisible. Donc, il n'était pas du tout gouverné par les choses de ce monde. Il n'était pas influencé par les choses de ce monde, mais il avait un focus sur le Seigneur et sur les choses invisibles dans le monde de l'esprit. Moi, je trouve ça révolutionnaire comme perspective. Ça veut dire, peu importe ce que les hommes peuvent nous faire, si nous avons un focus sur Dieu, nous allons marcher dans la victoire. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça bénissant. Amen. Alléluia. Non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses de Dieu, véritables de Dieu, sont éternelles. Là, on a déjà mentionné les souffrances de l'apôtre Paul. Mais là, ce que je veux faire ce matin, et je crois que Dieu veut qu'on fasse ensemble, c'est qu'on examine ensemble les souffrances de l'apôtre Paul. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oh non, pasteur, c'est quoi cette affaire? On est en vacances, là. Mais remarquez, vous allez voir la gloire de Dieu là-dedans. Je vous le dis. Est-ce que vous me croyez? Vous allez voir la gloire de Dieu, c'est remarquable. Moi, là, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça encore plus glorieux. Parce que je savais qu'il avait vécu beaucoup de persécutions, mais quand j'ai découvert à quel point la vie de Dieu se manifeste, ça nous donne le courage pour affronter n'importe quelle chose. OK. Je vous donne juste comme référence Rick Renner, qui est un expert en grec et en même temps un expert au niveau de l'histoire et de la culture biblique. Il a fait plusieurs études dans l'histoire pour connaître les punitions dans le temps des Romains. Et puis là, il nous explique exactement ce que l'apôtre Paul a vécu. Vous allez trouver ça assez intéressant. On a vu ensemble que l'apôtre Paul a dit qu'il a été battu de verges 3 fois, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a vécu ça. Je vous explique un peu. C'est une forme de torture désignée par les Romains, conçue pour ceux qui créaient des révoltes, donc des personnes qui propageaient une fausse doctrine, et puis on voulait empêcher cette personne-là, un révolutionnaire, on voulait l'empêcher. Donc, il y avait cette forme de torture qui était désignée spécifiquement pour ces gens-là, qui marchaient et qui propageaient l'erreur. Donc, les Romains, ce qu'ils ont fait, ils ont inventé cette forme de punition, forme de torture. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On attachait les pieds du criminel ou celui qu'on jugeait coupable. On attachait ses pieds. Ensuite, quand on dit « battu de verge », dans ma tête, lorsque je lisais ces textes-là dans la parole de Dieu, moi, je croyais qu'on prenait des gens de bambou et puis là, on était couché à terre et puis là, on flagellait le dos. C'est ça, même j'avais lu dans les commentaires bibliques. Mais en lisant ces recherches-là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est en fait, c'était pas juste se faire fouetter dans le dos, parce que déjà, il y a d'autres choses prévues pour ça. Il y avait déjà un fouet. Mais là, quand on parle battu de verge, on parle ici, c'était un bat en métal. et c'est écrit semblable à un bat de baseball aujourd'hui. Et on prenait les deux pieds attachés et on prenait le bat de baseball. Il y avait un soldat qui était là pour tenir les jambes et puis il y avait l'autre pour fracasser les os, pour vraiment casser les pieds, les chevilles, pour s'assurer que la personne va être infirme et ne pourra plus jamais répandre cette chose-là et causer des révoltes. C'était l'objectif. OK? Donc, l'apôtre Paul dit qu'il a été battu de verge 3 fois. Imaginez. Et pourtant, une première fois, ça serait suffisant pour nous rendre infirmes. Mais pourtant, il y a eu l'opportunité de recevoir ça 2 autres fois. Imaginez. Mais bon, là, je vais vous inviter à tourner dans Actes, chapitre 16. Vous allez voir, qu'est-ce qui est remarquable, que vous servez un grand Dieu, où la vie de Jésus se manifeste, même si quelqu'un vient pour casser les pieds de quelqu'un, le rendre infirme, Dieu est plus grand que cette personne-là. Actes 16, versets 22 à 26. C'est assez remarquable. Écoutez bien ceci. « La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. » Ici, on parle de Paul et Silas. « Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. » Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Et là, le cep, c'est des blocs de bois, et puis on mettait les pieds du criminel dans les blocs de bois. Verset 26. J'ai sauté un verset vraiment important. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Peut-être certains d'entre vous, si vous seriez dans cette situation-là, vous seriez en train de dire, « Mais Seigneur, pourquoi t'as permis ça? On s'est fait casser les pieds. Seigneur, pourquoi? Tu nous as oubliés. Mais Seigneur, voyons donc, on est tes enfants, les chouchous du bon Dieu. » Peut-être. Non, mais imaginez. Et là, ça dit vers le milieu de la nuit. Mais c'est normal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vous dis là, en ce moment? On pense aux épreuves pour de vrai, là, pour un homme de Dieu, Paul et Silas, qui ont vécu ça, et sont en train de chanter dans la prison. Des fois, on lit notre Bible, on dit, ils chantaient, ouais. On ne s'arrête pas pour réaliser. Mais c'est quoi cette histoire-là? Ils viennent de se faire battre. Ils viennent de se faire casser les pieds. Ils sont en train de chanter des louanges au Seigneur. Paul et Silas priaient et chantaient, pas des plaintes, mais les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire que c'était des pentecôtistes. C'est une joke. Ça veut dire que c'était assez fort pour que d'autres prisonniers les entendent. C'était pas comme, « Mais Seigneur, pourquoi tu nous détruis comme ça? » Non, c'était comme quelque chose de, « Écrivons l'histoire! » Quelque chose pour un chant de victoire, quelque chose de même. Hein? C'était sûrement comme ça. Ils tapaient du pied en plus, là, sûrement. Et les prisonniers les entendaient tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre parce qu'il y avait eu une explosion de foi dans cette prison-là qui a bougé quelque chose. En sorte que les fondements de la prison, peu importe votre prison aujourd'hui, les fondements de cette prison peuvent être brisés, détruits par votre louange. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je pourrais continuer, on pourrait juste étudier cette histoire-là. Mais au lieu de se plaindre, ils ont commencé à louer le Seigneur, prier et louer le Seigneur, et Dieu a fait un miracle. Ils chantaient sûrement leur héritage en Jésus. C'était sûrement des décrets. Vous savez, quand on loue Dieu, puis on commence à décréter la vérité de la parole de Dieu, c'est merveilleux. Des fois, on se dit, mais là, je trouve ça difficile à prendre des versets par cœur, puis juste décréter. Une des choses que vous pouvez faire, c'est juste chanter la vérité de la parole de Dieu. Vous pouvez chanter un verset. Et vous savez, quand c'est un chant, c'est moins redondant des fois que juste répéter. Mais là, vous commencez à chanter les louanges à Dieu. Vous décrétez dans les lieux célestes la vérité de la parole de Dieu. Et là, il y a des changements dans le naturel qui se produisent. L'apôtre Paul qui a vécu des choses atroces par ses chants et par sa prière, il a changé des événements. Alors, c'est merveilleux. De plus, non seulement ceux qui ont été libérés, mais ils ont même conduit le geôlier au Seigneur. Imaginez, Ni de faire casser les pieds, vous n'êtes pas en dépression, vous n'êtes pas en train de pleurer, vous êtes en train de louer le Seigneur et conduire des âmes au Seigneur, même en prison. Ça veut dire que l'ennemi ne peut pas nous empêcher d'avancer en Jésus. Là, si on lit dans le même chapitre, verset 34, le geôlier, les ayant conduits dans son logement, ça ne dit pas sur son dos, là, mais les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Wow! Là, si vous allez au prochain chapitre, si vous tournez votre page, vous allez juste au chapitre 17, ça dit, Paul et Silas, ensuite, ils sont rendus à Thessalonique. N'est-ce pas absolument remarquable? Et ça ne nous parle pas ici qu'ils ont été 6 semaines, 6 mois en convalescence à l'hôpital de Thessalonique. Non. Ils étaient là-bas, ils sont allés pour faire quoi? Pour prêcher l'Évangile. À quelque part, moi, je trouve ça absolument remarquable. Mais c'est une révélation ici sur le Dieu surnaturel de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, je pose la question, servez-vous le même Dieu? Avez-vous le même Dieu surnaturel et aussi puissant? C'est merveilleux, gloire à Dieu. Maintenant, 39 coups. 5 fois, il a reçu 39 coups. Je vous explique comment ça fonctionnait le fouet. Le fouet, lorsqu'une personne se faisait flageller. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, il est écrit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Et l'origine de cette chose, c'est dans Deutéronome 25, verset 2 à 3, ça nous parle qu'on ne devrait pas fouetter quelqu'un plus que 40 coups, comme je vous ai expliqué. Là, qu'est-ce qu'on faisait? Premièrement, il faut comprendre que le fouet avait 3 brins. 3 brins. Il y a un brin fait avec la peau d'âne, ensuite peau de veau. Donc, 2 peaux d'âne et une peau de veau. Et vous dites, mais pourquoi? Ben, c'est historique, c'est ça. Et puis, après chaque fouet, il y avait du verre cassé, un morceau d'os et un morceau de métal. L'objectif, c'est que quand on flageolait, il y avait toujours la peau qui venait avec. Donc, quand on dit qu'il a été fouetté 39 coups, mais c'est 39 coups fois 3 à chaque fois. Vous comprenez? Donc, une seule session là, de 39 coups, c'était 117 coups de fouet par punition. Une des choses, un tiers des fouets, lorsqu'on administrait les fouets comme ça, c'était sur le visage et sur la poitrine. 2 tiers des coups, c'était sur le dos, les fesses et les jambes. La personne, bien sûr, était mise à nu pour vraiment souffrir. Mais là, ici, on vient de voir, l'apôtre Paul a vécu ça 5 fois. 5 fois. Et pourtant, il dit dans 2 Corinthiens 4, 17, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Imaginez ce qu'il a vécu. Et pourtant, habituellement, quand une personne vivait une chose semblable, souvent les gens pouvaient mourir, hein, parce que c'était tellement douloureux, c'était tellement terrible. Mais pourtant, l'apôtre Paul a continué à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Une fois lapidé. Moi, j'ose même vous dire que je crois que l'apôtre Paul est mort et ressuscité. Moi, je crois ça, à cause du texte. Mais on peut pas l'affirmer 100% parce que ça nous dit pas. Mais je peux vous dire ici, dans 2 Corinthiens 11, verset 25, ça dit, une fois j'ai été lapidé. On plaçait le coupable dans une fosse. Comment on faisait ça? Je vais vous l'expliquer. Parce que je sais que vous êtes intéressés. On mettait le coupable dans une fosse et puis l'objectif, c'était de frapper la tête avec une roche. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Certainement, quand on lapidait quelqu'un, on prenait des roches et on essayait de prendre la plus grosse pierre possible pour tuer la personne et on essayait de frapper la tête. Le seul temps où on pouvait dire que bon la situation est réglée, que la personne est vraiment morte et on va cesser de lapider, c'était seulement lorsque le cerveau sortait du crâne. Selon l'histoire. Mais à ce moment-là, lorsque le cerveau sortait du crâne de la personne, on disait, la personne est morte. C'est à ce moment-là qu'on déclarait que c'était fini. Bon, l'apôtre Paul vient de se faire lapider. Je vous invite à tourner dans Actes 14, verset 19 à 20. Actes, chapitre 14, verset 19 à 20. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Vous avez dit, mais c'est quoi cette histoire ce matin? En fait, on est en train de lire l'histoire de l'homme que Dieu a choisi pour écrire la majorité du Nouveau Testament. Il y a quelque chose à nous apprendre. Si on est ignorant de celui que Dieu a utilisé le plus au monde, ben on passe à côté de toute une connaissance, n'est-ce pas? On devrait connaître qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Parce qu'il y a des choses à nous apprendre. Dans Actes chapitre 14, verset 19 à 20, « Alors, survint d'Antioche et d'Iconque des Juifs qui gagnèrent la foule. Écoutez bien, et qui gagnèrent la foule. C'est encore des religieux. Ceux qui s'opposent, l'opposition spirituelle, habituellement, c'est les religieux. C'est pas les inconvertis. C'est toujours ceux qui sont religieux, qui sont animés par un esprit de religion. C'est eux les pires. Saviez-vous ça? Ouais, moi je sais. Alors, souvent, d'Antioche et d'Iconde, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, remarquez, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort, verset 20, mais les disciples l'ayant entouré. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait quand ils l'ont entouré? Moi, je pense qu'ils ont prié pour lui. Moi, je pense. Mais les disciples l'ayant entouré, c'est soit qu'ils ont prié pour lui ou ils ont juste comme regardé. Connaissant les gens de l'Église primitive, quand on lit les textes, je pense qu'ils ont prié pour lui. Mais les disciples l'ayant entouré, il, en parlant de Paul, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Le lendemain, on continue, on s'en va prêcher et évangéliser. Le lendemain, on vient de lapider à mort. Et les gens pensaient qu'il était mort. Donc, je vous ai déjà décrit, quand on pense qu'il est mort, il y a des choses qui sortent de la tête. Désolé, c'est cru, mais c'est la vérité. Donc, on pense qu'il est mort. Le lendemain, on continue notre réunion d'évangélisation, un vécu. Non. Ah, mais c'est comme ça. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des obstacles devant nous qui sont infranchissables? Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que les rénovations vont nous empêcher d'avancer en Jésus? Non. Imaginez. Il y a des gens, savez-vous qu'il y avait des gens, j'ai entendu l'histoire, en Alberta, une église a décidé, on va faire un agrandissement et on déménage de l'autre côté de la rue. Et il y a des gens qui ont dit, ben, on va changer d'église parce que c'est trop loin pour nous. Ça, c'est quand on mesure notre essence au millimètre, je ne sais pas trop, là. Mais il n'y a aucune épreuve quand Dieu nous appelle à faire quelque chose. Dieu nous donne une grâce surnaturelle. Alléluia. Bon, en tout cas, moi, là, je peux vous dire, en lisant ça, ça m'a béni. Et vous avez dit, mais quelle sorte de pasteur qu'on a? Pourquoi ça me bénit? C'est parce que je réalise comment Dieu est grand. Et pourtant, on le sait, on lit ces textes-là, mais quand on se met vraiment à étudier et connaître, waouh, on voit que la vie surnaturelle de Jésus était dans l'apôtre Paul et puis était capable de se relever et d'aller prêcher l'Évangile malgré ces choses difficiles-là. Là, je dois vous partager quelque chose. Souvent, quand on veut croire Dieu pour des miracles, les gens, les apôtres de l'incrédulité vont vous dire, oui, mais regardez l'apôtre Paul. La prochaine fois, vous direz, oui, regardons l'apôtre Paul, justement. Regardons l'apôtre Paul. Avez-vous déjà été lapidé et vous relevez le lendemain pour aller prêcher? Non. Mais justement, là, oui, mais vous savez, il y a l'histoire de les chars dans la chair. Mais vous savez, là, je vais vous prêcher la tradition. Est-ce que vous permettez pendant quelques instants? La tradition dit, ben là, l'apôtre Paul avait eu plein de révélations. Et là, vu qu'il y avait plein de révélations, il pouvait devenir orgueilleux. Donc, Dieu a envoyé une maladie dans la vie de l'apôtre Paul, dans le corps de l'apôtre Paul. Et comme il était malade, il était dépendant sur Dieu. Et là, l'apôtre Paul a dit, j'aime vraiment ça être malade, parce que quand je suis malade, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est la tradition. On peut maintenant lire le texte. Je vais vous lire, OK? Je vais commenter un petit peu avec la tradition. Et là, ce qu'on va faire, on va s'arrêter pour examiner le texte. Ça va vraiment nous aider. Et là, on va tellement être béni qu'on va vouloir que tout le monde soit guéri. OK, on s'en va dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. On va commencer au premier verset. On va aller jusqu'au 10e verset. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là. Parce qu'on découvre encore une fois la puissance surnaturelle de Dieu. 2 Corinthiens 12. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel, Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Nous savons ici que l'apôtre Paul parle de lui-même. Okay? Et l'apôtre Paul a visité le ciel, a reçu des révélations de la part de Dieu. Et là, on voit au verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Remarquez le mot « infirmité ». Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire vraiment. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Remarquez le mot « orgueil. » Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis, et la tradition dira, il m'a été mis par Dieu, une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, on va parler de l'écharpe de la chair et on va définir ça habituellement comme étant une maladie. Des fois, on va dire, ah bien, l'apôtre Paul avait un problème avec ses yeux, il y a toutes sortes de choses qu'on va dire, et on continue. « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » On parle de la maladie. Donc, trois fois, l'apôtre Paul aurait demandé à Dieu, « Seigneur, guéris-moi. » Et là, Dieu a dit, verset 9, « Non, ma grâce te suffit. Endure mon Paul. Endure. » N'est-ce pas? N'avez-vous pas entendu ça comme ça? Souvent, c'est ça qu'on entend. C'est comme, « Non, Paul, ma grâce te suffit. » Et souvent, le mot « grâce », on comprend ça, c'est comme, « Je vais être là, je te donne la grâce. Endure. Endure ton mal. » Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Bon, là, je viens de le lire avec la tradition. Et c'est peut-être ce que vous avez entendu plusieurs fois dans votre vie. Et ce qu'on veut faire, c'est plaire à Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pas juste croire ce que les hommes nous ont dit. On veut retourner au texte et là, voir dans le grec, ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire, ou juste? Et là, quand on découvre les choses, selon vraiment la parole de Dieu, on découvre qu'il y a toute une autre dimension de choses qu'on peut comprendre. Donc, on va le lire cette fois-ci. Et si vous permettez, je vais vous lire dans mes notes de ma Bible, OK? Dans ma Bible, moi, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'écris dans ma Bible. Cette Bible-là, mon père me l'a donnée quand j'avais 12 ans. Je m'en souviens encore. Puis depuis des années, j'écris des notes. Et là, je vais vous lire un petit peu des notes que j'ai transcrites sur une feuille ici concernant ce passage-là, un passage qui, en fait, est le passage numéro 1 dans le monde chrétien pour vous enseigner comment ne pas recevoir de Dieu. Donc, si vous êtes en train de vous endormir en ce moment, donnez-vous une pichenote, là, et puis dites-vous, OK, là, c'est temps, faut que je me réveille. Parce que là, si vous apprenez ça, vous allez pouvoir recevoir de Dieu pour vous-même et aider quelqu'un d'autre aussi. OK? Parce qu'il y en a des gens autour de vous qui ont besoin de recevoir la vérité de la parole de Dieu concernant les chairs dans la chair. Bon, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. On va s'arrêter là. Saviez-vous que Dieu n'est pas contre l'élévation d'une personne, mais il est contre qu'une personne s'élève soi-même? Dans 1 Pierre 5,6, ça dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, Dieu veut nous élever, mais il ne veut pas que ce soit nous-mêmes qu'on s'élève. Amen? Donc, si je m'humilie devant le Seigneur, je marche dans l'humilité, le Seigneur, ça va lui faire un plaisir de m'élever. Gloire à Dieu. Donc, Dieu est contre l'exaltation de soi-même, désirant élever lui-même ses serviteurs. Donc, on vient de voir ça. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. On va aller maintenant au verset 5. On vient de voir ici comment il y a eu des révélations. Verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » C'est traduit dans le texte ici, en français, « infirmité », mais en fait, dans le grec, c'est le mot « asthénéia ». Je ne peux pas le prononcer correctement, mais c'est le numéro 1669, pour ceux qui veulent faire des recherches dans le Strong's, qui veut dire manque de force ou faiblesse. Voyez-vous la différence entre infirmité et faiblesse? Voyez-vous? Déjà, on vient d'enlever la maladie, là, juste avec ce mot-là. Donc, ici, je me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Donc ici, l'apôtre Paul, il va commencer à nous dire comment il y aurait raison quand même de se glorifier. Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Je vais m'arrêter. Ici, en français, c'est écrit enflé d'orgueil. Mais quand on va dans le grec, c'est le mot hyper quelque chose, qui est le numéro 5229. C'est plus facile pour moi de dire les chiffres. Qui veut dire être élevé. Une des formes qu'on peut prendre, c'est dans les définitions, c'est être élevé. Donc, et pour que je ne sois pas élevé, OK? Donc, l'apôtre Paul, il dit, afin que je ne sois pas élevé, qui n'est pas nécessairement contre la volonté de Dieu. Dans notre lecture traditionnelle, on a toujours pensé que l'apôtre Paul, ici, faut qu'il soit abaissé. Mais en fait, ici, là, afin que quelque chose l'empêche d'être élevé et même progresser dans son ministère, OK? Qu'est-ce qu'on voit? C'est dit, et même en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, dans King James, ça dit « exalted above measure ». Satan ne voulait pas que Paul soit élevé ou exalté, mais plutôt diminué et même détruit. Avez-vous remarqué dans les textes qu'on a lus concernant les persécutions, que c'était Satan qui venait contre lui, qui venait le détruire, qui voulait le tuer même? Avez-vous remarqué ça? Peut-être la partie quand il s'est fait lapider. Peut-être. Hein? Avez-vous vu ça? Dieu qui s'oppose aux orgueilleux, ne voulait pas que Paul s'élève lui-même, mais qu'il se laisse élever dans l'humilité afin que son ministère progresse et fleurisse. Là, bon, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis. Au lieu de dire par Dieu, cette fois-là, on peut dire il m'a été mis par Satan. Si on comprend la source de ce démon, mais on voit que c'est pas de Dieu. Donc, il m'a été mis par Satan, une écharpe dans la chair. Et là, les gens ont pris cette expression-là, une écharde dans la chair, pour dire c'était une maladie. Mais en fait, c'est une expression. Écharde dans la chair, c'est une expression qui se réfère à des personnalités. OK? Ça ne parle pas ici d'une maladie. À cause, et la raison, je peux vous donner des versets à l'appui. Nombre 33, verset 55, et Josué 23, 13. Et là, remarquez, qu'est-ce qui est écrit? Un ange de Satan. Avez-vous remarqué dans vos Bibles, là? Avez-vous vos Bibles avec vous? Il est écrit « un ange de Satan pour me souffleter ». Et là, remarquez, ça dit « de Satan ». Ça devrait être assez clair s'il y a un ange de Satan, que ça ne vient pas de Dieu. Hein? Est-ce que ça peut être clair, ça? Pour moi, c'est clair. Un ange de Satan ne vient pas de Dieu. Bon, en tout cas, un ange de Satan pour me souffleter. Et là, le mot dans Strong, c'est le numéro 2852, qui veut dire, remarquez bien là, c'est dit frapper avec le poing, donner une gifle à quelqu'un, maltraiter, traiter avec violence. Ça ne nous parle pas d'une maladie, ça nous parle de persécution, là. Donc, un démon envoyé par Satan suscitait l'opposition contre le ministère de l'apôtre Paul. Et là, puisque le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable, Dieu n'était pas un participant dans cette chose. Amen. Comprenez-vous? Et m'empêchait de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Trois fois, il a prié d'être libéré de ce démon qui venait l'attaquer avec toutes sortes de persécutions. Comme on a vu, la tradition enseigne, il priait pour la guérison et Dieu a dit non, endure. Mais là, ici, on comprend, il vient de prier, Seigneur, libère-moi, délivre-moi de l'opposition satanique. Et là, Dieu a dit, il n'a pas dit non, il a dit, ma grâce te suffit. C'était pas non, Paul. Il est en train de dire une vérité. Ma grâce te suffit. Là, remarquez qu'est-ce que ça veut dire, la grâce, là. Mais en fait, c'est la puissance surnaturelle de Dieu, la faveur, certainement, mais c'est une faveur surnaturelle de Dieu pour surmonter toute épreuve. Et Dieu, il dit, t'es équipé, Paul, pour chasser ce démon-là. C'est pas endure ton mal, mais ma grâce te suffit. En passant, Dieu a donné l'autorité à qui sur la terre présentement? Nous savons, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On comprend que Dieu a donné l'autorité à l'Église de chasser les démons. Amen. Est-ce que c'est à nous de prier, Seigneur, chasse les démons? Non. C'est à nous de chasser les démons. Donc, Dieu ici, il n'était pas en train de prendre un autre rôle qui ne lui revenait pas. Dieu disait, ma grâce, ma puissance te suffit, mon Paul. Car ma puissance, ça continue, car ma puissance, qui est le mot dynamis, numéro 14-11, qui veut dire force ou pouvoir d'accomplir des miracles. Je suis en train de vous donner juste des définitions dans le grec ici, là. Car ma puissance, mon dynamis s'accomplit dans la faiblesse. Le moment qu'on réalise qu'en nous-mêmes, on est faible, qu'on a besoin d'un miracle, c'est alors qu'on dépasse la puissance surnaturelle de Dieu qui vient sur nous, et là, on peut avoir la victoire. Mais voyez-vous, la lecture de ce texte-là, si on lit juste la façon que la tradition nous enseigne, ça nous dit comment on peut passer à côté tous les bienfaits de Dieu. Là, c'est pourquoi, je continue, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » L'apôtre Paul, il voulait que la puissance de Dieu repose sur lui. Et là, le mot « repose », c'est le numéro 1981, ça dit « désigne une habitation comme une tente ». C'est une habitation. Désigne une habitation comme une tente. Ce qui habite est le pouvoir, écoutez bien, le pouvoir de Christ qui descend sur quelqu'un, œuvrant au-dedans de lui et le secourant. Quand on voit là, ce repos-là, la puissance de Christ repose sur moi, vient à mon secours. La puissance de Dieu, de Christ, naît à son secours. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Là, remarquez-vous, ici, on est en train de parler de persécution. On n'est pas en train de parler de maladie du tout, là. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je crois, en lisant ce texte-là, connaissant l'historique de l'apôtre Paul, comment il a été persécuté, comment il a vécu des choses absolument atroces. On l'a lapidé, on l'a flagellé, on lui a cassé les pieds, on a toutes fait ces choses-là. Et pourtant, il est capable d'aller prêcher le lendemain matin. À quelque part, les chars dans la chair, on comprend, c'est un démon envoyé par Satan pour l'empêcher de progresser. Mais malgré ça, il y avait l'autorité au nom de Jésus, il pouvait continuer à prêcher l'Évangile sans obstacle. Vous pouvez prendre ça, moi c'est ça que je comprends. Ou vous pouvez dire, ah ben ouais, mais des fois Dieu veut qu'on soit malade. Moi je vois pas ça dans le texte, mais on est libre de croire l'erreur. Gloire à Dieu. Non mais honnêtement, c'est vraiment, pour moi c'est clair comme l'eau de roche, mais on est tous libres. Hein? C'est pour ça aussi en même temps qu'on voit qu'il y a des gens... Dans la parole de Dieu, qui peuvent lire la parole de Dieu des années de temps et passer à côté des vérités et passer à côté de l'héritage. Mais une des choses, moi je crois, on vient juste de commencer et je voulais répondre à la question peut-être que vous avez dans vos cœurs, mais pourquoi s'intéresser à la vie de l'apôtre Paul? Pourquoi s'intéresser à lui? Et là, aujourd'hui, on vient d'établir que cet homme-là, là, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Il a vécu des choses difficiles et pourtant, il prêchait l'Évangile quand même. Donc, Dieu nous appelle en tant qu'Église, il nous appelle à être porte-parole d'un message de foi, un message qui dit que Jésus sauve encore aujourd'hui. Peu importe les obstacles devant nous, avec Dieu, il n'y en a pas d'obstacles. Comprenez-vous ça? Il n'y en a pas d'obstacles avec Dieu. Peu importe, il n'y a pas d'obstacles avec Dieu. Parce que quand on marche en Jésus et on fait les œuvres de Dieu, c'est Dieu, c'est comme un méga bulldozer qui arrive et qui écrase le diable. Amen. C'est comme ça. Avec Dieu, moi aujourd'hui, là, si je peux juste vous encourager à que votre foi soit stimulée et croire aujourd'hui que les impossibilités devant vous ne sont pas impossibles. Les impossibilités que l'homme dit est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. Il n'y a absolument rien d'impossible à Dieu si vous avez le même Dieu que l'apôtre Paul a. Moi, je sers le même Dieu. Je sers le même Dieu, mais peu importe les épreuves, peu importe les défis, moi, là, je veux recevoir la grâce de Dieu pour passer à travers. Donc, aujourd'hui, on vient de voir ensemble la vie de l'apôtre Paul. Juste au début, vous savez même pas ses origines encore. Vous connaissez pas nécessairement comment il était méchant et détestable dans l'Église. Mais vous connaissez ces choses-là, peut-être que vous l'avez déjà étudié. Mais on va voir la semaine prochaine d'autres choses sur sa vie et vous allez commencez à découvrir des richesses dans la vie de l'apôtre Paul. Et ces choses-là, si vous prenez le temps là d'absorber ces choses-là, le Seigneur va vous bâtir dans l'homme intérieur. Vous allez protéger aussi des fausses doctrines qui circulent pour vous siphonner votre foi. Vous savez, l'ennemi, c'est ça qu'il veut. Il veut vous opposer spirituellement. Il veut vous endormir lors d'un message comme ça. Vous endormir, vous empêcher de recevoir les vérités qui sont là pour vous armer. Quand l'ennemi vient, et là, il y a quelqu'un qui vient vous voir à l'hôpital. Ah, oh, ben, c'est ça que Dieu veut pour toi. Là, vous savez que c'est pas les chars dans la chair. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, c'est parce que vous avez dormi. Mais si vous êtes là, vous êtes armé aujourd'hui et vous le savez qu'il n'y a rien d'impossible à votre Dieu. Et là, si, admettons, il y a un projet d'évangélisation, il y a un projet pour faire des grandes choses pour le royaume de Dieu, puis on dit, ben là, c'est trop grand ça. Avec Dieu, c'est pas trop grand. Ce même Dieu qui a permis que Paul se relève le lendemain, quand il a été lapidé, sans passer à l'hôpital 6 mois, mais comme ça, il se met à prêcher. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Et je veux vraiment vous encourager à croire en Dieu pour l'impossible aujourd'hui. Je vais inviter l'équipe de la louange. On va chanter des chants de louange. On va louer le Seigneur pour qui il est. Et aujourd'hui, si vous avez un besoin, si vous avez une chose dans votre vie qui semble impossible, je vais vous encourager, lorsque nous allons louer le Seigneur ensemble, je vais vous encourager à vraiment louer Dieu de tout votre cœur. Je vais vous inviter à vraiment relâcher votre foi pour l'impossible aujourd'hui. Et quand on prie, on doit s'attendre de recevoir, on doit s'attendre pour cette provision, pour la manifestation de la provision de notre salut en Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Gloire à toi. Merci Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, tu es tellement un grand Dieu. Tu es tellement grand Seigneur Dieu. Seigneur, je te remercie pour l'exemple, le modèle de l'apôtre Paul qui nous démontre aujourd'hui, qui nous démontre qu'il servait un grand Dieu. Qu'il n'y a rien au monde qui peut l'empêcher d'avancer tant et aussi longtemps qu'il marchait dans ta volonté. Et aujourd'hui, on prie ensemble pour cette révélation, pour une fraîche révélation dans nos cœurs, qu'on puisse avoir la même vision, la même perspective pour l'éternité, qu'on puisse voir les circonstances de la vie comme étant vraiment passagères et les choses éternelles, les choses dans l'invisible vraiment comme étant éternelles, inchangeables en toi. Merci, Seigneur Dieu, pour les choses que tu fais dans nos cœurs. Merci parce que tu nous bâtis. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous sommes des soldats dans l'armée du roi des rois, des soldats qui avancent. Nous avançons en toi. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Nous avançons dans la foi, dans la victoire. Amen. Gloire à toi. Et Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie, Seigneur Dieu. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour leur présence. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour leur cœur, pour toi, qui veulent marcher avec toi, qui veulent grandir dans tes voies, qui veulent être utiles entre tes mains. Et Seigneur, je prie pour eux qu'ils puissent avoir une bonne semaine en toi, vraiment remplis de ton Saint-Esprit toute la semaine, qu'ils puissent avoir du bon temps ensemble avec toi, Seigneur, au niveau de leur communion, dans la prière, dans la lecture de la parole. Oh Seigneur, viens visiter chaque personne de cette église par ton Saint-Esprit. Viens les toucher, Seigneur. Viens leur donner, Seigneur, une portion nouvelle de toi, Seigneur Dieu. Plus d'intimité, Seigneur, plus d'intimité avec toi cette semaine. Et j'ai pris au nom de Jésus pour ta gloire et je décrète sur chaque tête ton shalom, rien de manquant, rien de brisé au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis et bonne semaine. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.